Assalamu alaikum, j'espère que ça va, que tu te portes bien. Bienvenue dans Safia t'en parle et aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode pour te parler des menstrues. Notre problématique aujourd'hui, ça va être comment maintenir un lien avec Allah pendant les règles. C'est un sujet qui nous concerne toutes et je pense qu'on peut facilement avoir des baisses de foi quand on a nos règles. C'est même pas je pense, c'est un fait, c'est réel. Et on va essayer de décrypter le sujet, de comprendre pourquoi. Et forcément d'y trouver des solutions. Avant de commencer cet épisode, je tenais à rappeler que dans la religion musulmane, alhamdoulilah, on n'a pas de tabou sur la question. En fait, c'est un sujet qui est abordé d'une manière très claire, vraiment avec une grande clarté par nos savants, et tu le verras par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également. Malheureusement, c'est pas tout le temps le cas dans nos cultures respectives. Je parle de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne. On a vraiment créé tout un tabou sur le sujet, beaucoup de gêne, beaucoup de honte, au point où on se cache en fait de les avoir. On n'en parle pas, on chuchote et tout quand on en parle. Et souvent, on oublie qu'en fait, c'est Allah qui en a décidé ainsi pour nous. Il n'y a pas de, y a rien de péjoratif, de négatif sur le sujet. À partir du moment où enfin. Où il n'y a pas de tabou dans la religion, on n'est pas censé en créer dans nos cultures. Et au-delà de ça, encore une fois, bah, les règles ont un rôle important dans la vie d'une femme. On parle d'hormones, de créer la vie, de cycles, etc. Donc même si c'est pas très agréable, ça a un rôle important dans notre vie quand même. Enfin bref, la parenthèse est fermée. Quoi de mieux que de commencer cet épisode avec une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? En fait, je vais te la citer à travers une réponse du Cheikh Ibn Uthaymin. On lui a posé une question comme ça sur les règles et lui du coup il nous répond, alors c'est une réponse que tu trouveras dans un livre qui s'appelle Recueil de fatwa concernant les femmes. On y a posé plusieurs questions à différents shirks dont Ibn Baz al-Albani et Ibn Uthaymin, et justement le dernier nous dit à ce sujet, je cite, « Je dis qu'il convient à la femme d'accepter ce qu'Allah a décrété pour elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra l'année du pèlerinage d'adieu auprès de la mère des croyants Aïcha radhiyallahu anha alors qu'elle pleurait. Elle était en état de sacralisation pour accomplir une umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda « Qu'as-tu? Es-tu indisposée ?» Elle répondit « Oui ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua « Hada shay'un katabahu Allahu ala banati Adama. » C'est une chose qu'Allah a prescrite aux filles d'Adam. C'est pour cela que la femme se doit de patienter et d'endurer. Si elle ne peut jeûner et prier à cause des menstrues, la porte de l'invocation reste ouverte, qu'Allah en soit loué. Elle peut évoquer Allah et le glorifier, faire l'aumône et bien agir envers les gens par la parole et l'acte, ce qui figure parmi les meilleures œuvres. Là, il y a deux, trois pans qu'on peut aborder à travers ce que je viens de te partager ici. Déjà, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su réconforter Aïcha qui pleurait parce qu'elle ne pouvait pas accomplir d'une manière complète la Umrah. Et il a su trouver les bons mots, en fait la bonne parole pour la réconforter, en lui rappelant que bah, Allah en a décidé ainsi. C'est une chose qu'Allah a prescrite aux filles d'Adam. Et souvent, on va se sentir mal. Je pense que, par exemple, pour les Laylat al-Qadr ou la prière. Du jour du Eid, par exemple, on peut souvent se sentir mal parce qu'on peut pas prier sous prétexte qu'on a nos règles. Et souvent, on oublie qu'en fait, bah, le fait même d'accepter qu'on ne va pas prier parce qu'on a nos règles, on est un peu dans un. Finalement, on fait une adoration parce qu'on accepte la décision d'Allah. Donc là, il a su la réconforter et il lui rappelle du coup que ne t'en fais pas, tu n'y peux rien. Et. Allah en a décidé ainsi, donc la meilleure des choses au final c'est d'accepter. Et on a la parole du Cheikh Ibn Uthaymin qui nous dit que la porte de l'invocation reste ouverte. Mais je vais pas trop rentrer dans ce qu'il nous dit puisqu'on va aborder ça après. Du coup, première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est pourquoi est-ce qu'on perd un lien avec Allah pendant nos menstrues? Il y a deux choses qu'on peut pas faire quand on a nos règles. La première, c'est le jeûne, et la deuxième, c'est la prière. Forcément, la prière, c'est le lien le plus important qu'on a avec Allah. C'est un des piliers de l'islam, c'est la première chose sur laquelle on va être jugé, et forcément, bah, c'est le lien direct qu'on a avec lui. C'est un lien qui se manifeste 5 fois dans la journée, donc au final, on a 5 occasions de penser à lui et de se rapprocher de lui. Il faut visualiser la prière comme étant la partie la plus importante sur une pyramide. Tu peux voir ça genre comme si c'était le socle en fait. Donc si la prière disparaît, on a tout qui s'effondre. Et c'est là où justement la porte des péchés et des tentations va s'ouvrir. Et tu vas commencer à avoir les petites tentations et les péchés de plus en plus pendant ta semaine de règles. Parce que bah, forcément, la prière aura disparu. Donc en fait, c'est le lien le plus important et le lien le plus fort qu'on a avec lui. C'est pas pour rien que quand on a des baisses de foi, on retarde la prière. On la fait d'une manière beaucoup plus rapide que d'habitude. On la bâcle. Quand quelqu'un a une baisse de foi, il ne prie plus, par exemple. Moi, ça dépend des niveaux de baisse de foi et tout. Mais souvent, c'est la première chose sur laquelle on est piqué. Genre, la première chose, quand on a une baisse de foi, ça va toucher la prière. C'est le lien le plus important avec lui. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas l'abandonner. C'est pour ça qu'on doit continuer à la faire. Même si on la fait d'une manière rapide, même si on la fait mal, vraiment, continue et n'abandonne pas. C'était le conseil hors semaine de règles. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a d'autres choses que j'ai pu remarquer quand on a nos menstrues, c'est notre manière de penser. La première chose, c'est que souvent quand t'es entouré de personnes et tout, et qu'il y en a une ou l'un d'entre vous qui se lève et qui dit bon bah je vais prier, et que toi tu te lèves pas, je pense que ça t'est déjà arrivé de dire ça. Souvent on va répondre, pour se justifier du fait qu'on ne prie pas, on va dire ouais non, je suis en pause. Alors ma question ici, c'est en pause de quoi? Est-ce que t'es en pause sur ta vie religieuse, sur ta vie spirituelle, en pause sur ce lien que t'es censé avoir avec Allah, en pause sur le reste des actes d'adoration que tu dois continuer à mettre en place? En fait, on a tellement banalisé ce mot, genre le mot pause, qu'au final, bah, je me dis, mais en fait, sans même t'en rendre compte, les mots ont des impacts, ont un impact très important dans la vie. C'est un mot qu'on emploie, c'est pas juste... Il y a une conséquence beaucoup plus importante que ce que l'on pense. Et donc du coup, c'est bien d'essayer de se dire des fois, non, je suis pas en pause, et qu'on emploie les vrais termes. Non, j'ai mes règles, je ne prie pas. Et j'emploie pas le mot ragnagna ou truc ou je sais pas quoi. Ça y est, on est des personnes adultes, on n'emploie pas ce genre de truc-là. Comme je t'ai dit au début, on n'a pas de tabou, ni de gêne, ni quoi que ce soit. Non, je ne prie pas, j'ai mes règles, j'ai mes menstrues. Voilà, point. Donc c'est bien d'essayer de se débarrasser un peu de ça, de cette idée de pause. Et la deuxième chose, c'est les petites pensées qu'on va avoir une fois qu'on a nos règles. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et je vais te partager ça, peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire. La première chose, souvent quand on les a, c'est de se dire « Ah bah du coup, tant mieux, j'aurais pas à attraper mes prières ce soir. Ah bah du coup, tant mieux, j'aurais pas à me lever pour prier Salat El-Fajr. Ah bah du coup, tant mieux... je pourrais me coucher un peu plus tôt parce que j'aurais pas Salat El-Isha à faire. » Alors oui, c'est vrai, tu n'as pas prié, tu n'as pas rattrapé tes prières ni quoi que ce soit. Mais en fait, on se dédouane un petit peu, genre il y a un sentiment de réconfort, je sais pas exactement comment expliquer ça, mais on se dit, sans même s'en rendre compte, on est un peu content en fait au final de ne pas le faire. Alors être content ou pas, je ne sais pas, Allahu A'lam, je sais pas si c'est quelque chose un sentiment qu'on doit ressentir. Mais dans tous les cas, c'est une obligation, on n'a pas à prier en fait. Donc mettre un petit sentiment comme ça, là, ou une émotion joyeuse sous prétexte qu'on ne prie pas, je ne sais pas si c'est la meilleure des choses à faire, mais en tout cas c'est des petites pensées comme ça qu'on s'est mis à avoir et qu'on a souvent... alors pas à voix haute, hein, souvent on se les dit vraiment à nous-mêmes, mais faut y prêter un peu plus attention et y faire attention justement, parce que souvent c'est pas ce qu'il faut se dire. Est-ce que je reviens sur les péchés? Je pense que oui. Tout à l'heure je disais que la porte des péchés commençait à s'ouvrir, et des tentations également. Là je t'ai noté 2-3 trucs assez importants à mes yeux, mais en fait chacun a ses propres faiblesses, tu vois. Chacun a ses propres faiblesses, donc chacun a ses propres péchés et des choses sur lesquelles il peut facilement être tenté. Donc je tiens à le rappeler, c'est pas parce qu'on ne prie pas qu'on a le droit de commettre des péchés, ni à s'autoriser certains excès. La première chose que j'ai notée ici, c'est la musique. Je suis la première, quand je te dis que je suis la première à être touchée par l'écoute de la musique. Et subhanallah, aujourd'hui, j'étais avec ma grand-mère et je l'aidais à trier... des cassettes et des radios, il y avait deux radios, des cassettes et des CD de musique. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou, parce que avant, si tu voulais consommer de la musique, si tu voulais écouter de la musique, bah ça te demandait d'avoir de l'argent, et de devoir te déplacer. Tu devais aller te déplacer, acheter une cassette ou acheter un CD. Et du coup, j'ai fait le comparatif avec notre vie aujourd'hui, notre lien avec la musique. Bah en fait, si je veux écouter de la musique, j'ai mon téléphone à côté, je lance YouTube et je mets n'importe quelle musique que je souhaite. Donc rendu l'écoute de la musique beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et accessible comparé à avant. Enfin bref, c'était vraiment la parenthèse. Mais du coup, en temps normal, quand on prie, forcément, la prière, elle nous permet d'éloigner les péchés. Et quand bien même si on les commet, elle nous permet de les effacer. Ou du moins de... Je sais pas comment expliquer, mais souvent, par exemple, quand t'as l'idée de commettre un péché en tête et que tu vois que c'est Salat al-Asr, bah souvent, tu vas vite te reprendre et tu vas dire eh non, tu sais quoi, j'oublie, je vais aller prier d'abord, c'est le plus important. Et forcément, bah, l'écoute de la musique, ça fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand on prie, bah, on arrive un peu à se distancer de ce péché-là. Mais quand on ne prie plus, la porte de l'invocation, non. La porte des péchés s'ouvre. Et c'est là où ça va être très facile, justement, bah, d'en écouter. Et franchement, j'en ai fait les frais. C'est la première chose sur laquelle je suis touchée et qu'Allah me facilite l'arrêt de la musique. La deuxième chose que j'ai notée, et ça c'est un peu plus compliqué à aborder, je pense que je vais en parler d'une manière assez timide, c'est que souvent quand on a nos règles, et un peu avant, genre la semaine d'ovulation, c'est très intéressant, je t'invite à te pencher sur les différentes phases du cycle menstruel d'une femme, souvent on va être beaucoup plus attiré par les hommes, par le sexe opposé. Donc si on est beaucoup plus attiré par le sexe opposé, c'est là où va falloir faire attention à ce qu'on regarde. À qui est-ce qu'on regarde, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on écoute les discussions? Est-ce que souvent, forcément la femme, des fois, elle a envie de plaire, donc il faut essayer de se reposer des questions et se dire, ok, bon bah est-ce que là je suis pas en train d'essayer de plaire parce que je suis dans ma semaine d'ovulation, ou que je suis pendant ma semaine de règles et que je suis beaucoup plus attirée par l'autre. C'est encore une fois... En début d'épisode, je te disais qu'il n'allait pas avoir de tabou, c'est un peu le cas, même si je rentre pas forcément dans les détails. Si tu sais de quoi je parle, bah écoute, tant mieux. Mais voilà, c'est un des points sur lesquels il faut faire attention. Et on a la question du vernis et des poses de la pose de faux ongles, etc. C'est pas moi qui vais te dire non, ne mets pas de vernis, non, va pas faire une pose de faux ongles ou je ne sais quoi. Par contre, il y a une responsabilité à prendre. T'as le droit de t'embellir, tu vois, genre mettre du vernis par exemple quand t'as tes règles. Encore une fois, je vais pas te dire non. Enfin, parce que moi-même, ça m'arrive de le faire. Mais, là où faut faire attention, c'est qu'il faut prendre sa responsabilité dans ça et faut s'assurer d'avoir par exemple du dissolvant chez soi pile au moment où on va devoir reprendre la prière. Le vernis, je trouve encore que ça va. Par exemple, la pose de faux ongles, tu sais, en gel et tout, où ça te demande d'aller te déplacer chez l'esthéticienne et tout, encore une fois, libre à toi de le faire, mais prends ta responsabilité derrière. C'est-à-dire que ensuite, il faut que tu puisses être sûr de pouvoir avoir un rendez-vous pile au moment où tu vas devoir retirer tes ongles parce que tu dois faire ta prière, en fait, parce que ta prière t'attend. C'est important d'avoir ça en tête, ne joue pas avec ça en fait, prévois déjà, soit dans le futur, dis-toi déjà ok, bon bah mes règles elles durent, je sais pas moi, 5 jours, faut absolument que dans 5 jours ça soit retiré et que je puisse reprendre ma prière de la meilleure des manières. Je trouve que des fois c'est dommage parce que sans même t'en rendre compte, tu manques de respect à Allah et tu retardes la prière juste parce que là t'as fait une pose de faux ongles et que t'as pas pensé à les retirer et tout. Et c'est un truc que je vois dans mon entourage et faut essayer de se préserver de ça quoi et d'éviter de tomber dans ce piège. Donc voilà, franchement je t'ai cité 2-3 exemples auxquels j'ai pensé, mais comme je te l'ai dit, chacun a ses propres faiblesses, chacun a ses propres des péchés sur lesquels il a du mal à s'en défaire, etc. Donc on essaie vraiment d'analyser tout ça et de se dire que comment dire, c'est même pas de se dire mais d'être dans la prévention en fait avec nous-mêmes, de dire ok bon bah là je vais avoir mes règles, faut que je fasse attention à ceci, faut que je fasse attention à cela. Je crois que c'est fini pour non, l'épisode n'est pas fini, t'inquiète pas, mais pour la question des péchés. J'ai envie de passer à comment mettre en place d'autres actes d'adoration. Forcément, tu le sais, la prière elle a disparu, donc là va falloir essayer de renforcer notre foi et de la remplacer par autre chose. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le dhikr, qui est la pensée uniquement dédiée à Allah. En fait, ce qui est très intéressant dans la prière, c'est qu'elle est construite à différents... Enfin, construite. Elle est basée sur... comment dire ? Sur 5 moments dans la journée. Donc ce qui est ce qui serait intéressant ici, c'est de pouvoir construire notre dhikr sur plusieurs moments clés de la journée. Le premier moment où tu peux et tu pourrais penser à Allah, c'est le matin, en te réveillant. Donc moi, je sais que le matin, j'aime bien... tu vois, genre vu que t'es là et que tu pries plus, t'as pas eu tes petites 5 minutes là de Salat al-Fajr. Vu que ça a disparu, c'est bien de se réveiller et de dédier sa première pensée à Allah en disant une invocation. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dana amatana wa ilayhi nushur. Tu remercies Allah de t'avoir réveillé. Juste après, moi vraiment, je me base sur ce que je fais. Hein. Juste après, c'est les doigts avant de sortir. Les doigts où tu demandes protection à Allah. Déjà, de une, on vit dans des temps, dans une époque trouble. Vraiment, quand je te dis trouble, moi je me dis tout le temps, subhanallah, je sais pas comment ça se fait, et alhamdulillah au final, hein, que je me sente hyper protégée et qu'il m'arrive rien. Et franchement, je sais pas comment expliquer la chose, mais j'ai tout le temps peur. Genre avant de sortir, je me dis tout le temps, j'espère que je vais pas croiser de fou, j'espère que je vais pas croiser de psychopathe ni quoi que ce soit, parce que. Franchement, et on ne sait pas, dans les transports en commun, les trucs comme ça et tout, moi c'est ma plus grande peur. Donc avant de sortir, demander protection à Allah. Moi j'aime bien dire Tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ensuite tu peux rajouter al-Fatiha, trois fois al-Falaq, trois fois al-Nas, trois fois al-Ikhlas et Ayat al-Kursi. Généralement, quand je te dis avant de sortir, mais moi je le fais sur le chemin, genre quand je vais prendre mon train. Enfin bref. Et donc du coup, tu as ton dhikr que tu peux également avoir tout au long de la journée sur des moments de pause en fait. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 fois par exemple. Et ensuite, on arrive à la fin de la journée, donc juste avant d'aller dormir, bismikallahumma amutu ahya. Et si tu as envie d'en faire plus, d'en faire davantage, tu peux t'autoriser voilà, 5 petites minutes où tu parles comme ça à cœur ouvert à Allah, où tu lui racontes ta journée, où tu lui demandes ce que tu veux. En fait, vu que la prière nous permet d'avoir des petits moments dans la journée où on pense à Allah et on rentre en contact d'une certaine manière avec lui, où on s'autorise 5 minutes à la fin, où on joint nos mains et on fait nos invocations et on lui demande ce qu'on veut, vu que ça disparaît, il faut qu'on trouve un moyen de le réorganiser pendant nos règles. Donc voilà, moi je te conseille ça, après c'est à toi de faire ce que tu veux. Voilà pour le dhikr. Juste après, on a la lecture du Coran ou de la lecture de livres religieux ou même l'écoute du Coran. On a le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz à qui on a demandé « Est-il permis à la femme indisposée de lire des livres d'invocation le jour de Arafat malgré qu'il y ait des versets coraniques ?» Alors là, la personne se base sur Arafat, mais franchement, tu vas voir dans la réponse, c'est pas que uniquement pour ce jour-là. Et lui, il nous répond « Il n'y a aucun mal à ce que la femme indisposée lise les invocations écrites dans les livres des rites du pèlerinage. Il n'y a aucun mal également à ce qu'elle lise le Coran selon l'avis le plus correct, car il n'y a aucun texte authentique explicite qui interdit à la femme qui a ses menstrues de lire le Coran. » Et ça, on a également une preuve en fait qui est rapportée dans un hadith. Alors, et d'ailleurs, je trouve que c'est un très beau hadith parce que ça prouve, comment dire, le comportement noble du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses femmes quand elles avaient leurs règles. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait sur mon torse lorsque j'avais mes menstrues, puis il récitait le Coran. Donc au-delà du beau comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça prouve également que en fait on peut très bien écouter du Coran. Et en fait c'est là où des fois on a des avis qui sont différents. Est-ce que la femme a le droit d'écouter du Coran? Est-ce qu'elle a le droit de le lire et de nani, nanana? Oui, tu peux écouter du Coran et tu as le droit de le lire. Maintenant, sur la lecture du Coran, en fonction de ton madhab, en fonction des quatre écoles, les avis vont être différents. Je sais que chez les malikites, c'est pas autorisé, qu'on peut pas toucher le Coran et que si on veut le toucher, il faut mettre des gants ou un tissu ou avec un objet ou je sais pas quoi. Je trouve que c'est pas le meilleur, donc c'est bien de le lire sur son téléphone, par exemple. Où il y a certains qui vont dire que ça concerne seulement le Coran écrit en arabe. Si tu as une traduction, tu peux le lire. Tu vois, genre si tu as la traduction en français, tu as le droit de le toucher. Encore une fois, ça dépend des savants, ça dépend des avis des quatre écoles. Donc je t'invite vraiment à te positionner sur ton madhab. Donc voilà pour la lecture. Et je trouve que c'est bien aussi parce qu'en fait, la lecture du Coran, déjà que de base, on a un peu de mal avec. On a... Le lien qu'on a avec le Coran, généralement, tout le temps, tous les jours, c'est dans la prière, c'est quand on le récite. Donc si on perd ça, c'est bien d'essayer de l'implanter pendant les règles en essayant de lire un petit peu. Donc lire ou écouter, hein, mais vraiment ne te restreins pas sur ça. On a également les invocations. Comme je te l'ai dit, à la fin de la prière, souvent on dédie un petit moment pour les invocations. Donc n'oublie pas tes invocations. Et la prière sur le prophète également. On l'oublie souvent, mais ça... Enfin, ça cache tellement de bienfaits, la prière sur le prophète. C'est beaucoup de hasanat que tu peux prendre très très facilement. Donc n'oublie pas la prière sur le prophète. Et puis voilà, écouter des rappels, partager des rappels, écouter des podcasts aussi. Je trouve que c'est toujours bien. Et voilà, en bref, t'as plein de bonnes actions que tu peux mettre en place. Et le Cheikh Ibn Uthaymin nous en parlait également. Tu vois, genre la zakat par exemple, tu peux faire l'aumône. Tu peux répandre le bien. C'est bien d'ouvrir un petit peu son esprit et trouver des moyens de pouvoir faire le bien et de continuer à garder ce lien avec Allah. On m'a également parlé de... Quand je parlais de cet épisode, on m'a également conseillé la méditation contemplative. Par exemple, au moment où ça aide, c'est bien... Tu vois, genre, je sais pas si t'es un jardin ou... Je sais pas comment expliquer... ou que t'es dehors ou quoi que ce soit, genre juste tu médites en fait sur ce qui t'entoure, sur les arbres, sur les oiseaux, sur la verdure et juste le fait d'être en admiration et de se poser 2 secondes et se dire mais waouh, subhanallah en fait, genre juste waouh, subhanallah, même ça c'est un acte d'adoration, tu seras récompensé pour, donc voilà. Mais voilà, en tout cas il y a plein de bonnes actions, c'est à toi de piocher, de prendre ce qui te fait du bien et de regarder ce qui te permet de te sentir proche d'Allah, c'est surtout ça. La prière c'est ce qui nous permet de nous sentir proche de lui, si ça disparaît il faut trouver ça d'une autre manière. La foi c'est quelque chose qui se reconstruit tout le temps et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les hommes par exemple ils prient tout le temps, tu vois, donc c'est différent de la femme. La femme on... Je sais pas comment expliquer. C'est une occasion en fait. C'est une occasion de rebondir à chaque fois et de reconstruire notre foi et de la renforcer à chaque fois. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode et forcément si on arrive à la fin de cet épisode, il est important de parler des grandes ablutions. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui savent pas forcément ce que c'est que les grandes ablutions, comment est-ce qu'on les fait et pourquoi est-ce qu'on doit les faire. Beaucoup de personnes se contentent juste de prendre une douche une fois qu'elles doivent reprendre la prière. Alors qu'on soit clair, pile au moment où tu ne saignes plus, enfin, soit bien sûr que c'est plus le cas, hein, mais quand tu ne saignes plus, que tu n'as plus de saignement, tu as pour obligation de reprendre la prière. Sauf que tu ne peux pas la reprendre comme ça, comme si de rien n'était. Il faut absolument effectuer les grandes ablutions. En fait, les grandes ablutions, c'est comme un rite obligatoire, c'est une étape obligatoire de purification avant de pouvoir reprendre la prière. Le lien avec Allah, tu l'as encore, mais la prière, c'est différent. La prière, ça demande d'être dans un état pur, un état propre. Rien que les petites ablutions, on nous demande de venir et de se présenter à Allah d'une manière propre, ça nous purifie. Donc tu vois la manière dont les petites ablutions te purifient, les grandes ablutions, c'est encore... J'ai envie de dire c'est encore pire, mais non, c'est encore meilleur. C'est 1000 fois mieux. C'est une étape à ne pas négliger. Et que ce soit en fait dans un cas obligatoire ou pas, il y a beaucoup de bienfaits encore une fois dans les grandes ablutions. Tu vois, c'est recommandé de les faire le jour du vendredi. C'est recommandé de le faire le jour du Eid. Mais c'est également obligatoire une fois que tu n'as plus tes règles. Donc c'est vraiment... c'est pas qu'une douche en fait. Tu vois, genre c'est pas qu'une douche. Ça a différentes étapes. Et si ça a différentes étapes, c'est qu'il faut les mettre en place. T'as un peu moins de 10 étapes, je crois. Ouais, se laver les parties intimes, faire les petites ablutions, se laver 3 fois les cheveux, se laver le corps en commençant par le côté droit, puis le côté gauche, et terminer avec l'attestation de foi. Vraiment, c'est quelque chose de très très rapide. Et puis, je trouve que c'est un bon moyen de revenir à Allah. Tu sais, des fois, quand les gens, ils ont des baisses de foi pendant leur semaine de règles, j'en parlais avec une copine un jour, elle me dit « Ouais, mais moi, des fois, j'ai du mal à reprendre la prière et tout. » une fois qu'elle doit la reprendre tout simplement, je sais pas si c'était très français ce que je viens de dire, et du coup elle me disait oui bah moi je fais du dhikr pour essayer de reprendre la prière et tout, et je me disais mais à partir du moment où tu as fait tes grandes ablutions c'est bon en fait, ça t'impose tout de suite, bam, ça te met dans le bain, ça y est, tu n'as plus tes règles, tu te lèves, tu vas faire tes grandes ablutions et t'es censé tout de suite reprendre la prière vu que t'es conditionné à la reprendre. Tu es dans un état où tu es purifié. Donc, tu es conditionné à la reprendre et ce, meilleures des manières. Donc, vraiment, il faut que ça devienne une routine, en fait. Et c'est, dans le fond, une routine pour la femme, tu vois. Tu as eu tes règles, tu as essayé de garder ce lien avec Allah, tu ne les as plus. Eh bien, écoute, cours, va faire ta prière et avant de la faire, fais tes grandes ablutions, ne les néglige pas. Bon, je crois que j'ai tout abordé dans cet épisode. J'aime bien faire des petits récaps. Donc du coup, on va vite fait, hein, très rapidement, reprendre tout ce que j'ai abordé ici. La raison pour laquelle tu peux avoir une baisse de foi pendant tes règles, c'est la prière qui a disparu. Donc du coup, la meilleure des choses, c'est de venir mettre en place d'autres actes obligatoires. On a le dhikr, la lecture et l'écoute du Coran. On a la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les invocations. Donc ne néglige pas tout ça. On fait attention au péché, on fait attention à nos propres faiblesses, aux tentations de Shaitan pendant les règles. Donc on essaie vraiment d'apprendre à se connaître et de... Quand tu apprends à te connaître et tu sais quelles sont tes tentations, c'est plus facile, je pense, de ne pas tomber dedans. Et enfin, on fait preuve de sérieux quand on doit reprendre la prière. On essaie de ne pas la repousser et tout ça en effectuant les grandes ablutions. Je tiens à le rappeler quand on décide... C'est pas vraiment ça, mais quand on... On ne prie pas et qu'on ne jeûne pas quand on a nos règles, sans même le vouloir, sans même le savoir, finalement on est en train de faire un acte d'adoration parce qu'on accepte ce que Allah a décidé et a décrété pour nous. Voilà, je tiens à le rappeler, c'est une chose qu'Allah a prescrite aux filles d'Adam. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit dans cet épisode. Si tu as d'autres suggestions, des idées, des trucs que toi tu fais, que tu mets en place, n'hésite pas à me le partager. Tu peux me suivre sur Instagram, c'est safia.wm. Et d'ailleurs, je voulais grave vous remercier parce que franchement, les stats en ce moment, c'est un truc de fou. Tous les jours, je regarde, je me dis, mais waouh! Donc vraiment, merci beaucoup. Barakallahu fikoum pour tous vos partages, pour toutes les personnes qui en parlent autour d'eux. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Mettre un commentaire, une étoile, 5 étoiles. Et voilà, j'espère avoir tout abordé encore une fois. Entre-temps, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode, Inch'Allah.